Okay.
Wow. On se croirait dans une église persécutée. Une petite salle dans le noir. Okay. En tout cas, c'est un plaisir d'être là avec vous encore. Merci pour vos vies, vraiment. Puis priez pour Isabelle et moi, pour Marseille. Continuez de prier. On a besoin de... On a besoin de lumière. D'accord ? Priez pour nous, s'il vous plaît. Merci beaucoup et merci à Pasteur Jean. Ton amitié. Oui, il m'a frappé. Mais les blessures d'un ami valent mieux que les blessures, que les baisers d'un ennemi. Donc, je ne te remercierai jamais assez, Pasteur Jean. Non, c'était bien. On a passé du bon temps. Ok. Seigneur, merci. Merci parce que tu es suffisant pour nos vies. Et voilà, c'est une proclamation que nous faisons. Tu es suffisant, Seigneur. Et c'est pour ça qu'on te cherche. Et c'est pour ça qu'on veut te connaître. Et c'est pour ça qu'on a tellement et désespérément besoin de toi et de toi seul. Alors merci de bénir ce temps, Seigneur, de bénir mes lèvres, ma bouche, Seigneur, et de bénir nos oreilles à tous, Seigneur. Et nous te remercions pour ta présence. Merci pour la délicatesse que tu as envers chacun, Seigneur, cette sensibilité. Tu es un Dieu personnel, comme on vient d'entendre, Seigneur, et on te remercie pour ça. Merci, Seigneur. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Ok. Alors, on va parler des émotions. On va commencer depuis le début. Dans Genèse 1, 26, il est dit, la Bible nous dit, « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Alors bien sûr, ce que je veux faire ressortir, c'est que Dieu nous a créés à son image. À son image. Il est évident, et j'imagine que tout le monde le sait et le comprend, que Dieu étant un esprit, il n'a pas de corps. Donc la ressemblance avec Dieu n'est pas dans le physique, mais elle est dans le spirituel, dans notre être immatériel. Vous savez qu'on est tous composés de différentes choses dans notre être intérieur, immatériel, mais on est comme Dieu, à l'image de Dieu, dans le sens qu'on a une intelligence, une volonté et des émotions. D'accord ? Donc les émotions, c'est quelque chose que Dieu possède, que Jésus possédait, je vais vous donner quelques versets, que Jésus possédait aussi, et qu'il a donné à l'homme. Alors c'est compliqué parce qu'on n'y était pas, mais on ne sait pas quel était l'état des émotions d'Adam et Ève. Bien sûr, c'était parfait. Hein, c'était parfait, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, quelque chose de parfait. On ne sait pas véritablement, d'accord ? Mais tout ce qu'on sait, c'est que la Bible décrit Dieu comme un être qui a des émotions. La Bible décrit Jésus comme un être qui a des émotions et qui les a manifestées en tant qu'homme. Et puis, nous, on est aussi des créatures de Dieu. Et Dieu nous a créés avec une intelligence, une volonté et des émotions. Maintenant, le problème des émotions, ce n'est pas les émotions elles-mêmes. Il ne faut pas regarder les émotions comme quelque chose d'étrange. C'est Dieu qui les a mis dans notre constitution profonde. Elles ont un rôle important, un rôle, très, très, très vital même dans notre vie. Pasteur Steven le disait souvent, on l'a entendu, les émotions ne sont pas faites pour penser, elles ne peuvent pas diriger notre vie. Mais elles ont été données pour que nous puissions apprécier la vie de Dieu. D'accord ? Vous savez, et on le sait tous vous avez peut-être lu des articles, entendu parler, que la joie, le rire, c'est bon pour la santé. Imaginez que les émotions ne viennent pas de Dieu. Il y a des religions où rabaisser, comprimer, rabaisser, en tout cas, bon, je sais pas comment on dit ça, les émotions. Dans le bouddhisme, par exemple, moi je ne suis pas un spécialiste du bouddhisme, mais on t'encourage à ne plus ressentir quoi que ce soit. Ni vraie joie, ni vraie tristesse, ni rien du tout. Ni rien du tout. Et je pense qu'en faisant ça, on enlève une grande partie de la vie que Dieu nous a donnée. Parce que le problème, ce n'est pas les émotions, c'est la gestion des émotions. Et la place qu'elles prennent dans notre vie. C'est un peu comme les désirs. Une convoitise, le mot convoitise dans le Nouveau Testament, c'est le mot epitoumia, ça veut dire une pensée qui prend une place qui n'est pas la sienne. Ou un désir qui se place au-dessus, qui désorganise l'ordre de la pensée. Par exemple, quelqu'un qui désire quelque chose, une personne, un célibataire qui dit « je veux me marier, j'aimerais me marier », où est le problème? Il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Maintenant, si son désir commence à monter en priorité dans sa pensée et que ça atteint un ordre qui n'est pas le sien, là, ça devient une convoitise. Et la convoitise, c'est quelque chose qui malheureusement, le diable utilise comment? Le diable l'utilise comme une accroche pour travailler dans notre cœur et dans notre vie. Si les convoitises ne sont pas activées, la tentation ne peut pas s'accrocher. L'apôtre Jacques le dit. Celui qui marche dans ses convoitises, la tentation est là, il se retrouve, ils font un petit bébé qu'on appelle le péché, et le péché entraîne la mort. Voilà. Mais un désir saint, soumis à la volonté de Dieu et au plan de Dieu, on doit respecter ça. N'importe qui viendrait vers moi et qui me dirait, en tant que pasteur, qui me dirait... Voilà, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, peu importe. Voilà, j'aimerais me marier, j'ai vraiment le désir de me marier. Je lui dirais, écoute, il n'y a aucun problème, je te comprends. On va mettre ça devant Dieu et puis Dieu va te diriger, il n'y a pas de problème. On ne va pas dire à quelqu'un, non, tu sais, non, pourquoi? Pourquoi? Non, absolument pas. Donc, Dieu a des émotions. Jésus avait des émotions et Dieu nous a créés avec des émotions. D'accord? Dans le psaume 30, verset 6, il est parlé de la colère de Dieu. Il est dit qu'à sa colère dure un instant. Alors, c'est compliqué. C'est des gens qui, les psalmistes, comme les écrivains de la Bible, ont écrit avec leurs mots, parce que c'est compliqué de définir Dieu avec dans son aspect infini, parfait, etc. C'est compliqué. Néanmoins, on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu ne se met peut-être pas en colère comme nous le faisons exactement, mais il a une colère. On parle même du jour de la colère de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 1:10, il est dit que Jésus nous a sauvés de la colère à venir, la colère de Dieu à venir. Néanmoins, la Bible nous dit que sa colère dure un instant. D'accord? Mais sa colère, qui est la colère, qui est une émotion, elle dure un instant, et c'est assez intéressant que tu aies remarqué ça, parce que je lisais encore cet après-midi que si la colère dure longtemps, normalement, la colère devrait, on devrait pouvoir ressentir de la colère dans certaines situations, exprimer même notre colère avec respect pour les gens qui sont autour de nous, et ensuite, boum, c'est fini, on laisse tomber. Une colère qui dure longtemps va se transformer en ressentiment et en haine. Et vous savez qu'il y a des gens qui, à cause d'un coup de colère, dans une famille ou entre amis, eh bien, ont créé des scissions, ont fait que les gens ne se parlent plus pendant des années. La colère qui se transforme en haine ou en ressentiment peut durer toute la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle un sentiment. L'émotion, c'est quelque chose que tu ressens comme ça. Je veux dire, c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. Par exemple, on rigole, on a de la joie, voilà, ça dure un moment. En général, quand on dit une blague, quand quelqu'un dit une blague, ça procure un peu de rire, un peu de... Je sais pas si c'est de la joie, mais en tout cas, ben voilà, vous ne passez pas la journée à rire. Hein, on ne passe pas notre journée. Donc l'émotion, c'est pour... C'est la démonstration de notre pensée, c'est l'aspect visuel de la compréhension qu'on a d'une situation, mais ça peut se transformer en sentiment sur toutes les choses négatives. Et ça peut durer malheureusement longtemps. Dans Néhémie 8, 10, et vous connaissez ces versets, il est dit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » La joie de l'Éternel. Donc Dieu n'est pas un être impersonnel qui est figé comme une statue quelque part, mais il a des émotions, il a une volonté, il a tout ce que nous avons, il nous l'a donné, c'est lui qui nous l'a donné. Et il a une volonté très forte. L'intelligence, on la voit dans son œuvre créatrice, je veux dire, waouh. C'est un des arguments qu'on utilise lorsqu'on parle de l'univers et qu'on voit que l'univers est tellement ordonné, tellement agencé, tellement merveilleusement agencé, on dit il faut une intelligence pour ça, n'est-ce pas? Donc, pour ce qui est de sa volonté, il est dit dans Ésaïe 14, verset 24, « L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. » Personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. On cherche sa volonté comme quelque chose de sûr et de certain. Elle nous rassure, sa volonté. Heureusement que Dieu a une volonté. Sinon, ce serait le bazar. Ce serait le désordre. S'il n'avait pas de volonté, il n'y aurait pas de principe de vie. Et s'il n'y avait pas de règles, s'il n'y avait pas de principe de vie, la vie serait impossible. Il n'y aurait pas de vie, de toute façon. Donc, voilà, ça c'est notre Dieu qui a des émotions, une intelligence, une volonté, et il nous a créés à son image. Concernant Jésus, on le voit lui aussi, on va juste utiliser la joie et la colère. Il y a un verset qui est assez intéressant, justement le passage de Jean 11 que Pasteur Jean a mentionné, au verset 15, il parle aux disciples avant d'aller voir Marthe et Marie, et il dit « Et je me réjouis à cause de vous ». Je me réjouis à cause de vous. J'ai cherché le mot réjouir. C'est vraiment le mot kairo, ça veut dire c'est vraiment se réjouir. C'est pas une image. Ça veut dire que Jésus, à la vue de ce qu'il est en train de faire vivre à ses disciples, et certainement dans la vision qu'il a de ce qu'il va produire à travers ce qu'il va faire, il se réjouit, non pas que Lazare soit mort, parce que même s'il dit « je me réjouis à cause de vous que Lazare » que Lazare soit mort, c'est pas tant la mort de Lazare, parce qu'il savait qu'il allait ressusciter, mais c'était ce qu'il allait apporter, le plus qu'il allait amener dans la vie de Marthe, de Marie, des disciples et des gens qui allaient être autour. Et donc il y a une joie, et la joie, quand vous voyez quelqu'un qui est joyeux, d'après vous, automatiquement vous pensez à quoi ? Qu'il pense à des choses douloureuses ou qu'il pense à des choses joyeuses ? Automatiquement, vous savez, n'est-ce pas? Vous savez. La même chose, quand vous voyez un visage abattu, qu'est-ce que vous pensez? Oh, lui, il a dû regarder un film avec Louis de Funès, c'est évident. Mais non, on sait que la personne est en train, ou vient de vivre quelque chose de difficile, ou a reçu une mauvaise nouvelle, ou quoi que ce soit. D'accord? Quelque chose de triste, d'alarmant, de désespérant, de décourageant, etc. Et puis la colère. Il n'est pas mentionné qu'il avait de la colère vraiment, mais dans Jean, toujours dans Jean 2, verset 15, il est dit « Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa, les marchands du temple, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. » On peut imaginer, on appelle ça une sainte colère, mais malgré tout c'est une colère. Elle n'est pas sainte parce que c'est Jésus qui l'a expérimenté ou qui l'a exprimé, mais elle est sainte comme nous, on peut avoir une colère sainte aussi vis-à-vis d'une injustice, vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas correct, vis-à-vis de gens qui bafouent la parole de Dieu, des chrétiens qui deviennent libéraux et qui disent n'importe quoi, des églises qui deviennent de plus en plus libérales. On peut avoir une sainte colère dans notre cœur. Mais le secret, encore une fois, c'est ça. Le secret, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas dans les émotions que vous ressentez, c'est dans la gestion des émotions. Si une émotion commence à monter, prendre une place qui n'est pas la sienne, là, ça devient dangereux. Parce que vous lui donnez l'autorité maintenant de contrôler votre être entier et votre destinée presque à un moment donné. Votre futur. En tout cas, ça entache et ça va déterminer une partie de votre futur. Donc, les émotions, il faut en jouir. C'est important. Elles sont là. Elles sont faites pour être exprimées et c'est très bien. Jésus a éprouvé de la tristesse en voyant Jérusalem, de l'indignation, de la tendresse vis-à-vis de Marthe et Marie, de l'étonnement vis-à-vis des Juifs qui ne comprenaient rien, de l'angoisse dans le jardin de Gethsémané. Il a éprouvé de la frayeur. Il a éprouvé toutes sortes d'émotions, toutes sortes de choses, toutes sortes. Où est le problème ? Le problème n'est pas, encore une fois, « Ah, j'ai eu une angoisse ». Ok, le problème, ce n'est pas ça. D'ailleurs, moi, j'entendais quelqu'un qui disait « Il y a une différence entre le sceptique et celui, le sceptique et le... » Mince, j'ai oublié l'autre mot. Le sceptique et le... 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 cynique. Et le cynique. Le sceptique, c'est celui qui dit « Moi, il me faut un peu plus pour croire quelque chose. Hein? » Et il parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était dans la prison, il avait été arrêté par Hérode, il allait se faire décapiter bientôt. Et puis il envoie un disciple, vers Jésus. Il lui dit « Jésus, Jean-Baptiste demande si tu es vraiment celui qu'on doit attendre. » Attends, Jean-Baptiste vient de le baptiser. Il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La voix s'est fait entendre du ciel. La colombe est venue, le Saint-Esprit est venu sous la forme d'une colombe sur Jésus. Et il envoie quelqu'un dire « Es-tu celui qui devait venir ?» Et qu'est-ce que Jésus lui a dit ? Jésus n'a pas dit... Il n'a pas envoyé le disciple en disant « Mais écoute, tu diras à ton patron que ce n'est pas normal, je veux dire, d'être aussi incrédule que... » Non, ce n'est pas de l'incrédulité. Il était dans un moment difficile, il avait besoin d'être réconforté, il avait besoin qu'on fortifie sa foi. Et Jésus ne lui a pas fait de reproche du tout. Il a dit « Allez dire à Jean-Baptiste que... Les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques se lèvent, les muets parlent. Ah, allez lui dire. Et il comprendra ce que ça veut dire. Et donc, et même la personne disait, avoir des doutes, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ça veut dire que tu cherches, ça veut dire que tu es en recherche. Ça veut dire que si on te donne des éléments, tu vas finir par croire. Tu vas finir par comprendre. Mais le cynique, lui, c'est celui à qui tu peux donner toutes les preuves que tu veux. Il a décidé que de toute façon, il ne croira pas. Il ne croira pas. Et ça, c'est pas bon. Donc, les émotions, quelque part, les émotions, il ne faut surtout pas qu'on ait peur de nos émotions. C'est la gestion, encore une fois, de nos émotions, la place qu'on leur laisse. Et ça, c'est important. Donc, c'est pas... Il est normal qu'on éprouve des émotions, pas parce que Dieu en a et que Jésus en a éprouvé, parce que Dieu nous a créés comme ça. Et ça fait partie de notre constitution. Ça fait partie de notre constitution. Et on a tort d'essayer de... On a tort quand on, quelque part, sans le vouloir, inconsciemment, on culpabilise quelqu'un qui aurait telle émotion qui ne serait pas appropriée pour la situation. Premièrement, on n'est pas dans la tête des gens, on n'est pas dans la vie des gens. Il faut respecter même les émotions des gens. Il faut les respecter. On ne peut pas dire à quelqu'un, non mais attends, t'es un homme quand même, ou faut arrêter, etc., etc. C'est pas normal. Alors, il y a un passage qui m'a toujours touché, et on a entendu parler des émotions négatives, les premières émotions négatives, vous savez sûrement où elles sont apparues. Elles ont été expérimentées dans le jardin d'Éden. Hein? Quand Adam et Ève ont désobéi, eh bien, ils ont ressenti pour la première fois de leur jeune vie, ils ont ressenti des émotions négatives. La peur, la culpabilité et la honte. Hein? En lisant, on va le lire à partir du verset 8, Genèse 3, 8. après qu'ils aient péché, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Donc il s'est caché parce qu'il était nu, donc la honte, il avait peur. Et l'Éternel lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Donc la culpabilité, sa culpabilité, il la transfère maintenant sur une personne. Donc on voit ces choses-là, même si elles ne sont pas définies, sauf la peur. J'ai eu peur, j'étais nu, je me suis caché, la honte, et il transfère sa culpabilité sur la femme, et la femme transfère sa culpabilité sur le serpent. Ces trois choses-là. Alors, la honte, c'est en relation avec lui-même. Il était nu, et tout à coup, l'homme commence maintenant à se regarder et à avoir des émotions négatives vis-à-vis de lui-même. Et je pense qu'on n'a pas besoin de faire de grands dessins, on sait tous ce que ça veut dire que de se regarder quelque part dans la glace et d'avoir des émotions négatives vis-à-vis de nous-mêmes. Et je ne parle même pas physiquement, je parle... Vous savez, quand on se regarde dans la glace, on se regarde dans les yeux, et c'est terrible. On se regarde dans les yeux, et l'autre là-bas, il nous dit quelque chose. Il nous dit quelque chose. Notre vis-à-vis qui est nous-mêmes, il nous dit quelque chose. C'est assez intéressant comment... Tant qu'il n'y a pas d'image, on peut à la rigueur presque passer à côté, quoi. Mais quand il y a notre image qui nous regarde comme ça, c'est assez puissant comme chose. Donc la honte en relation avec lui-même, la peur en relation avec Dieu, parce que tout à coup, lui qui a péché, eh bien, sa relation avec Dieu, il sait inconsciemment que sa relation avec Dieu est bouleversée. Et Dieu devient non pas le Dieu qui amène la paix, mais le Dieu qui amène la peur. La peur. C'est pour ça que, de tout temps, les gens ont eu peur de Dieu. C'est pour ça que, de tout temps, des chrétiens ont lutté avec cette émotion, c'est-à-dire la peur de Dieu. J'ai peur de Dieu. Et dans les systèmes religieux bien fermés, bien traditionnels, là, on n'en parle même pas. Ça fait partie de la vie religieuse, avoir peur de Dieu. Nous, on a la crainte révérencieuse de Dieu. La crainte, c'est qu'on a de la révérence pour Dieu. C'est un respect avec un grand R qui consume notre être entier quand on est vraiment conscient de cela. On est, on se met à plat ventre devant Dieu, on n'ose pas lever les yeux devant le Seigneur. Non pas qu'on a peur de lui, mais il est tellement beau, il est tellement grand, il est tellement saint, il est tellement extraordinaire que... c'est quelque chose. Mais la peur, c'est une émotion que l'homme a commencé à éprouver dans le jardin d'Éden et qu'il a transmise, et il nous a transmise à nous aussi. Et nos parents ont bien travaillé à ça aussi, inconsciemment aussi, je veux dire, c'est comme ça. Moi, la honte, la peur, la culpabilité, je sais ce que c'est. J'étais pas dans un cadre familial qui me permettait de passer outre ces choses-là. Je faisais ma part, absolument. Je faisais ma part. Je pouvais avoir la trouille de ma mère, je pouvais avoir la trouille de mon père. Là, il n'y avait aucun problème. Mais voilà, on en est là. Maintenant, j'aimerais voir avec vous deux passages où il y a des gens qui ont géré leurs émotions. Dans Lamentations 3, versets 19 à 25, on a Jérémie. Jérémie est appelé le prophète souffrant, pleurant. Et tout son ministère, ça a été ça. Même je dirais, quand Jérusalem a été emportée et partie en déportation, et que lui est resté, parce que le roi qui était venu conquérir Juda avait entendu dire que Jérémie encourageait le peuple à ne pas résister à celui qui allait venir. Parce que de toute façon, ils allaient partir. C'est Dieu. C'est même pas le roi qui allait les prendre et les emmener à Babylone. C'était Dieu qui avait dit, vous allez partir à Babylone. Et donc, les prophéties de Jérémie, c'était ne résistez pas, ne luttez pas, acceptez la discipline de Dieu sur votre vie, et ça se passera mieux que si vous résistez. Donc, jusqu'à la fin, on l'a frappé, on l'a maltraité, on l'a traité de menteur, on l'a mis en prison, on l'a rejeté, il a failli mourir plusieurs fois, etc. Et même quand il a vu son peuple partir, c'est un homme de douleur et de souffrance, toujours. Tu ne peux pas voir ton peuple partir et te dire « Ah, j'avais raison, vous avez vu ?» Non, ce n'est pas possible. Il aime son peuple. Un juif, il aime son peuple. Donc, jusqu'à la fin, c'est un homme qui a pleuré. Il a pleuré sur son pays, et puis il a pleuré à cause de ce qu'il vivait. Il a expérimenté énormément de tristesse et de douleur. Énormément. Donc s'il y en a un qui peut nous enseigner en disant qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Je souffre, j'ai souffert de telle chose, de telle personne, dans telle situation. Et ça me mine encore, la souffrance est là, et la douleur est là, et le souvenir est là, etc. Et les émotions, bien sûr qu'elles sont là. Parce que les émotions ne sont que la démonstration de ce que tu penses à l'intérieur de toi, de ton analyse d'une situation. C'est pour ça que deux personnes qui regardent la même situation peuvent avoir des émotions différentes. Même, je me souviens, Ravi Zacharias, un apologète américain, il a dit qu'un jour, il est allé, je ne sais plus dans quel pays exactement. Je crois que c'était en Inde ou ailleurs, je ne sais plus. En tout cas, dans un de ces pays, vous savez, vous voyez des enfants avec 100 bras, des gens qui sont là sur le trottoir et qui font la manche pour vivre, quoi. Et donc, il avait vu un enfant qui était handicapé, mais je ne sais plus ce qu'il avait exactement, mais c'était vraiment un handicap lourd, quoi. Et la maman était assise là, et l'enfant était là quelques années, 2, 3 ans, 4 ans. Et quand il a vu l'enfant, il a dit, j'ai vu l'enfant, mon cerveau a analysé la situation, et tout à coup, une émotion de compassion est montée dans mon cœur. J'avais tellement pitié pour cette femme et pour cet enfant, etc. Il a dit, après, on est monté dans la voiture, et celui qui m'a accompagné m'a expliqué, il m'a dit, tu sais ce que tu as vu là-bas? Eh bien, l'enfant qui n'avait pas de bras, là, c'est la mère qui lui a coupé pour pouvoir l'utiliser et attirer la pitié des gens. Il dit, à l'instant même où j'ai eu cette information, de la colère est montée dans mon âme. Il est passé d'une émotion à une autre émotion, parce que on a besoin de nos émotions pour pas que nos pensées nous accable trop. On a besoin de faire sortir les choses. Et nos émotions sont là pour ça. Elles sont là pour ça. Mais tu ne peux pas juste te dire « j'exprime mes émotions ». Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux les exprimer, elles vont s'exprimer. Même si c'est pas verbalement, ton visage va refléter ce que tu ressens, l'émotion que tu ressens. Je peux imaginer que cet homme, quand il a entendu dire ça, s'il n'était pas tourné vers celui qui lui parlait, il a dû se retourner vers lui avec des yeux écarquillés, un visage complètement stupéfié. Parce que l'émotion, c'est aussi... Tu n'as pas besoin de parler, ton visage parle. On disait tout à l'heure, quelqu'un qui reçoit une nouvelle douloureuse, ben on va lire sur son visage l'émotion qu'il ressent à ce moment-là. D'accord ? Oui, même ceux qui sont muets peuvent exprimer des émotions, absolument. Absolument. Leurs yeux, leur corps, leur visage, tout exprime l'émotion qu'ils ressentent. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Alors là, il y a une indication qui est importante. Quand je pense à ma misère, à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, ça veut dire quand je pense à toutes ces choses que j'ai vues, que j'ai endurées, à tout ça, quand je pense à ça, mon âme est abattue au-dedans de moi. Ça veut dire je ressens des émotions très négative et mon être entier est abattu. Mon visage est défait, mon corps s'affaisse, j'ai plus de force, j'ai plus rien du tout. Il dit, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je n'ai pas le droit de vivre de cette façon-là. Parce que mes émotions ne peuvent pas diriger ma vie. C'est vrai que j'ai vécu ça, c'est vrai que quand j'y pense, ça me produit telle chose, mais je n'ai pas le droit et je n'ai pas envie, j'ai autre chose à vivre que ça. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Ça veut dire qu'il prend autorité sur sa pensée et maintenant il s'ordonne de penser différemment parce qu'il sait que les pensées qu'il va se donner vont lui donner maintenant une autre émotion à vivre, un autre style de vie à vivre. Et il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, ô que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté, pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Pensée négative, émotion négative. Pensée positive, émotion positive. C'est comme ça. C'est comme ça. Parfois, je me demande si on demande la joie au Seigneur et Dieu nous dirait simplement, mais peut-être on n'entend pas, mais pense différemment. Change de pensée. Tu es triste parce que tu penses mal. Ou tu es prisonnier d'une émotion et cette émotion, elle t'entretient dans un cycle de pensées qui ne sont pas bonnes. Donc, s'il y en a un qui pouvait justifier sa tristesse, et on l'aurait respecté pour ça, c'est bien lui. Vous savez, quand les gens vous disent, « Mais tu ne sais pas par quoi je passe. » Ok, effectivement, on ne sait pas. Mais il se trouve qu'avec Jérémie, on sait. Et donc, on apprécie davantage encore le fait qu'ils disent, « Non, je ne veux plus penser comme ça. Je ne veux plus manger de la poussière. Je ne veux plus que la misère soit mon lot quotidien. C'est fini. Je ne veux plus. Je veux penser différemment. » Et je sais que la pensée, quand je dis la pensée, ça veut dire, c'est pas juste change de pensée comme ça. Bah, tiens, je vais penser à quoi je vais penser à je sais pas, je vais penser à un coucher de soleil. Non, c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas ça du tout. Ça veut dire qu'il regarde la même situation, mais il ne laisse pas la situation lui renvoyer une pensée négative. Parce qu'il sait que les émotions ne sont là que pour révéler ce qu'on pense véritablement, notre analyse de la situation. C'est pour ça qu'on ne peut pas cacher les choses. Un jour ou l'autre, ça sortira. Ce qui est dit en secret sera crié sur les toits. Ce qui est caché sera révélé. Un jour ou l'autre, ça sortira. Examinons-nous nous-mêmes. Qu'est-ce que nous vivons comme émotion ? Est-ce que nous sommes joyeux ? Est-ce que nous sommes tristes à longueur de journée ? Est-ce que, toutes ces choses-là, ça doit nous parler et nous dire, hé, mon coco, tu sais pourquoi tu es comme ça ? Parce que tu penses, ton analyse de la situation, elle n'est pas bonne. Elle est peut-être juste dans la définition, c'est dur. Ok, c'est dur. Mais tu ne peux pas t'arrêter là. On doit avoir une pensée qui transcende la situation, qui nous amène au-delà de la situation. On a un Dieu qui transcende les situations. Et sa pensée transcende les situations. Et ses promesses transcendent les situations. Et c'est pour ça que Jérémie a dit, non, voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Ça veut dire ce qui me permettra d'aller bien plus loin que la réalité qui s'impose à moi dans les difficultés, etc. Donc, il va faire un travail sur ses pensées. Et en faisant un travail sur ses pensées, il va attirer les bonnes émotions. Vous savez, on est fait pour avoir des émotions saines. On est fait pour ça. Rappelez-vous, les émotions ne peuvent pas nous diriger. Si une émotion négative dure plus qu'une minute, c'est ce qu'on estime normalement, une minute et demie, Attention, ça commence à prendre trop de place. Et l'effet que ça va produire peut être, malheureusement, à la longue, irréversible. On est, nous, responsabilisés, non pas de s'inventer de s'inventer des émotions. Quand ça va mal, ne dis pas « Ah, ça va bien, non, non, ça va bien. » Non, c'est pas ça. Dis que ça va pas, mais finis par dire « Mais voilà ce que je veux passer dans mon cœur. » C'est ça le mécanisme, en fait. C'est ça le mécanisme. Alors, il y a des gens, il y a une partie de la psychologie qui dit que il faut exprimer ta colère au Japon, dans les usines, parce qu'ils travaillent comme des fous et qu'ils stressent énormément. Ils doivent se défouler. Donc, dans certaines usines, tu as un sous-sol, sous l'usine, et au bout de une grande pièce insonorisée, et au bout de la pièce, tu as des portraits en grand du patron, et on te donne une mitraillette, et vas-y, défoule-toi. Et tu tires sur ton patron. Voilà. Et ça te défoule un petit peu. Mais il faut revenir. Parce que ça... Allez, si on change de patron, il faut recommencer. Il y en a un autre qui nous enseigne aussi, c'est Habacuc. Habacuc, c'est un prophète. Un prophète qui va prophétiser des choses qui sont dures sur Israël. Et je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est honnête et qui est convaincu de ce qu'il dit. Il est tellement convaincu de ce qu'il dit que ça produit sur lui des émotions négatives. Ça veut dire qu'il croit vraiment. C'est pas comme quelqu'un qui te dit quelque chose, puis deux minutes après, il va s'amuser, il rigole ou quoi que ce soit. Non, il est vraiment concerné. Il dit, Habacuc 3, 16 à 18, il dit, « J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Encore un autre, qui, lui, c'était même pas forcément dans ses pensées. Il prophétisait, il avait amené des prophéties, et il était tellement convaincu, et vraiment, il croyait ce qu'il disait, que ça affectait ses émotions. Il avait peur, il frémissait au-dedans de lui. Il avait de la tristesse, il avait de la peine, il avait peut-être de l'angoisse, il ressentait beaucoup de choses. Mais encore une fois, on a ce défi-là. Malgré tout, toutefois, mais... Comme David qui dit, « Moi, je suis pauvre et indigent, je ressens la fatigue, je ressens toutes ces choses-là, mais l'Éternel pense à moi. » C'est ça que je veux me souvenir, c'est que l'Éternel pense à moi. Donc, quelque part, le travail des émotions, le travail pour avoir des émotions saines, et c'est normal. Ça, l'émotion, c'est un peu comme une soupape, surtout quand c'est négatif, c'est un peu comme une soupape. Tu ressens tellement de stress, ou tu ressens un sentiment qui te ravage à l'intérieur, et là, tu as besoin d'exprimer ça. Et tu l'exprimes par des paroles, par peut-être, je ne sais pas, par des gestes, par une action, par quoi que ce soit. Mais ça, c'est juste, c'est pour toi, c'est bien, mais tu ne peux pas demeurer là-dedans. On ne peut pas demeurer là-dedans. On ne peut pas laisser les émotions négatives nous détruire. Parce qu'elles ne sont pas faites pour diriger notre vie, encore une fois. Elles ne sont pas là pour ça. Donc, le prophète Habacuc, il se fait peur avec ses propres prophéties. Et il décide alors de chercher un sujet de joie qui lui permettra de modifier ses émotions. Un homme, on n'a pas été fait pour vivre dans la douleur tout le temps. On n'a pas été fait pour vivre dans le désespoir. On n'a pas été fait pour vivre dans la tristesse, dans l'anxiété, dans l'inquiétude. On n'a pas été fait pour ça. On n'a pas été fait pour ça. Et nous ne sommes pas sans espérance. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Le païen, lui, n'a pas d'espérance et il en cherche. Il en cherche. Il lit des bouquins de pensées positives, il lit des trucs où les gens ont gagné beaucoup d'argent parce qu'il a envie de réussir, il lit des témoignages de ceci, il essaie d'imiter des gens, etc. Il est tout seul avec lui-même. Mais nous, on n'est pas seul avec nous-mêmes, avec nos problèmes, nos difficultés, nos pensées et nos émotions. On a quelque chose qui nous permet de transcender tout ça, de sortir de là, de chanter en prison. Ou comme des pasteurs qu'on a mis en prison en Roumanie, en Pologne ou en Russie, et quand on voulait les faire sortir parce que leurs 10 ans étaient passés, ils disaient « Non, non, j'aimerais rester. J'aimerais rester. » Ou je ne sais plus qui a rapporté ça dernièrement. Je ne sais plus où je l'ai entendu. Mais quelqu'un, une chrétienne qui s'était... je crois c'était une musulmane qui s'était convertie. On l'a attrapée. Elle a reconnu qu'elle était chrétienne. Et on lui a dit, on va te tuer. Elle a dit, ça m'arrange parce que comme ça, je vais être tout près. Je vais aller auprès du Seigneur. Il lui a dit, on ne te tuera pas. On ne va pas te faire ce plaisir-là. Les gens sont vraiment... on ne va pas te tuer. Comme ça, on ne va pas te faire ce plaisir d'aller que tu ailles voir ton Jésus, là. Ah, vous y croyez ? Non, on n'y croit pas, mais on ne va pas te faire ce plaisir quand même. Donc, les émotions sont un lien entre nous et ce qui se passe en nous et en dehors de nous. C'est ça, les émotions. Les émotions sont comme des témoins qui montrent aux autres que nous sommes connectés. Et imaginez, ça m'est arrivé avec une ou deux personnes, et c'est assez troublant. Assez troublant. Tu parles avec une personne et tu ne vois aucune émotion sur son visage. C'est le vide. Il te regarde, mais tu n'as aucune expression. Tu ne peux pas savoir ce qu'il pense. Tu ne peux pas savoir comment il reçoit ce que tu lui dis. Tu ne peux pas savoir s'il est d'accord avec toi ou pas d'accord avec toi. Tu ne peux pas savoir s'il est content ou pas content. Toi, tu te dis, y a quelqu'un ? Non, c'est très déconcertant. Alors que les émotions qu'on exprime à travers notre visage, à travers, au moins, ça nous connecte quoi. Ça nous connecte. Même sans parole, on se connecte. Enfin, on se regarde avec Isabelle et puis... Voilà, il y a des choses qui connectent. On n'a pas besoin de parler. Mais ça doit s'exprimer. C'est une émotion, c'est de la joie. C'est, je sais pas... Voilà, des bonnes choses. Et les émotions ont été faites pour ça. Pour ça. Donc... ça m'a toujours troublé. Une personne que j'aime beaucoup, mais qui me trouble de temps en temps, malgré tout. Juste vous donner un truc un peu, pas théorique, mais un peu juste comme ça. La plupart des gens qui réfléchissent sur les émotions de base ou primaires, comme ils disent, ils en citent 6. Après, il y a des déclinaisons, il y a des mélanges, etc. Hein? Tu peux avoir une surprise joyeuse, c'est une émotion, une surprise triste, c'est une autre émotion, etc. Mais il parle de la joie comme d'une émotion de satisfaction. De satisfaction. Si tu vois un chrétien qui n'est jamais joyeux et qui te dit que lui, ça va, il est content, il est satisfait, non, il y a un problème. Soit il y a un problème génétique, le gène de la joie, il ne l'a pas eu. Et maintenant, et ça le gêne beaucoup d'ailleurs, mais non, il n'est pas né avec. Il a une déficience génétique. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Un chrétien qui n'exprime pas la joie, il n'est pas joyeux. Ben, c'est aussi simple que ça. S'il n'est pas satisfait, il ne va pas exprimer la joie. Et s'il n'exprime pas la joie, alors il n'est pas satisfait. C'est comme ça. La tristesse, c'est une émotion engendrée par une séparation. C'est-à-dire que, quelqu'un qu'on aime s'en va, on perd quelqu'un, on est séparé momentanément de quelqu'un par la maladie ou quoi que ce soit. Oui, ça produit de la tristesse. Ou alors on est séparé parce que tout à coup, on ne croit plus les mêmes choses et puis les chemins s'écartent, etc. Il y a de la tristesse. Et il n'y a rien de mal à tout ça. Honnêtement, il n'y a rien de mal à tout ça. Au contraire, ça nous donne même la preuve à nous qu'on est des gens normaux. On est des gens normaux. C'est normal. Parce que si on n'avait pas d'émotion, comment on pourrait savoir si ce qu'on pense est vrai ou pas, ou juste ou pas? C'est l'émotion qui nous fait dire et qui fait dire à ceux qui nous regardent qu'on est des gens normaux ou pas. Si je passe près d'un cimetière et que je prends des fous rires à chaque fois que je passe... Bon, à moins que ce soit ton pire ennemi qui soit là-bas depuis une semaine, et à chaque fois que tu passes... je suis content. Ça c'est... Bon, c'est autre chose, c'est un peu à part. Mais... Je ne sais pas, tu passes devant un endroit où normalement ça devrait t'inspirer à la rigueur, pas des émotions, pas de joie en tout cas, pas de rire, pas de choses comme ça. Si quelqu'un te voit, on va te dire que tu n'es pas normal, n'est-ce pas? Si tu parles que tu as perdu ta belle-mère et que tu sautes au plafond de joie, on te comprend. Non, je veux dire... Ok, donc la colère, émotion conséquente à une blessure, une injustice. Une injustice, quelque chose qui n'est pas juste, ça peut nous mettre en colère. Mais rappelez-vous, la colère doit durer juste un instant. La peur, émotion ressentie en présence d'un danger ou d'une menace réelle ou imaginaire. Mais en tout cas, c'est normal. Le dégoût de quelque chose qui n'est pas propre, de quelque chose qui n'est pas pur, qui n'est pas normal, qui est anormal, qui est mal, quoi. C'est une émotion de rejet. On veut s'écarter de ça. La surprise, une émotion engendrée par un événement inattendu ou une révélation soudaine de quelque chose. Donc ça, c'est... Voilà. Toutes ces émotions sont normales. Et si vous les ressentez de temps en temps, certaines plus que d'autres, je peux imaginer, j'espère... La joie, la satisfaction, toutes ces choses, même si la satisfaction, ce n'est pas une émotion. Donc, on traite nos émotions, surtout les négatives, même je dirais les positives, on les traite avec pour ce qu'elles sont, mais il faut faire attention. Tu ne peux pas ressentir que de la joie tout le temps. Si tu t'efforces à ressentir que de la joie tout le temps, c'est que tu es en dehors de la réalité de la vie. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Mais si tu es triste tout le temps, c'est pas normal non plus. Et là, c'est dangereux. Je ne sais pas exactement le danger que court celui qui veut être toujours joyeux et qui veut faire abstraction de la réalité de la vie, mais je sais que celui qui est triste et qui laisse sa tristesse l'envahir et qui laisse la peur l'envahir et qui laisse l'inquiétude l'envahir et toutes ces choses-là, ça peut se transformer en quelque chose qui est difficilement maîtrisable à un moment donné. Parce que ça n'a pas été créé pour ça. C'est momentané. D'accord? C'est comme ça. Dans 2 Corinthiens, et je vais terminer avec ça, 2 Corinthiens 10:5, il est dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » On veut avoir des émotions saines. Pour ça, il faut amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Rappelez-vous, tout se passe dans la pensée. C'est dans la pensée que naissent les émotions et que nous les exprimons à travers les mots, les attitudes, le visage, des gestes, etc. Voilà, donc c'était... tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Et voilà. Amen.